OK, alors bonjour tout le monde. Il y a foule, il y a foule. Vous avez une copie de la prochaine leçon sur la petite table dans l'entrée? OK, alors on va commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Étier. Vous êtes dans le cours L'âme sœur. Et puis on est dans la deuxième portion du cours qui est vraiment sur les fréquentations. Donc on va compléter la leçon 5. Très, très brève. En fait, non, je pense que j'ai pris le temps de regarder puis... On n'avait pas besoin de la compléter. On va passer tout de suite à la leçon 6. Puis maintenant, vous pouvez trouver tout ça sur le site web aussi. D'accord? Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, on veut te remercier pour ce temps, Seigneur, qu'on peut prendre ensemble ce matin pour réfléchir à la lumière des préceptes de ta parole à bien se préparer pour le mariage, Seigneur. Vive des fréquentations qui te glorifient, qui sont édifiantes pour nous aussi, Seigneur, qui nous préparent bien à cette merveilleuse chose, Seigneur, qu'un couple qui s'unit ensemble pour la vie, pour bâtir un foyer à ta gloire. Je te demande d'être avec moi ce matin, Seigneur, avec juste la clarté de mes pensées alors que je termine ce petit rhume. Je te prie de bénir nos échanges, nos discussions, que ça puisse être vraiment édifiant pour chacun, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, ce matin, on commence à regarder le début des fréquentations. D'accord? Et dans le fond, là, si vous aviez la table des matières dans la première leçon, dans la table des matières, on voyait qu'on va comme suivre, à partir d'ici, on va comme suivre les fréquentations jusqu'au mariage, si on peut dire. Puis à travers ça, on va élaborer à quoi ça sert, comment on fait ça. Voilà. La semaine dernière, on s'est donné une définition. Peut-être juste revenir avec notre définition de la semaine dernière. Où est-ce que j'ai ça? Pardon. Fréquenter est une relation entre un homme et une femme qui prennent du temps ensemble activement et intentionnellement afin de considérer le mariage. D'accord? Donc ça, c'est la définition, disons, de base qu'on s'est donnée sur les fréquentations. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ce matin, on va aller voir ensemble les premiers pas vers les fréquentations. On a encore pas mal de matière à couvrir ce matin. Alors, ce matin, on continue à étudier les relations prémaritales bibliques en examinant de plus près l'initiation ou pour aller vers le début d'une relation, d'une fréquentation. On veut réfléchir à des questions, quelques questions. Pourquoi est-ce que je devrais initier ou accepter de commencer une relation? Quelles sont les qualités que vous devriez rechercher? Qui initie cette relation, puis enfin, comment conduire ces fréquentations et dans quel cadre, d'accord? On va essayer de couvrir tout ça ce matin. Je veux juste faire un commentaire d'emblée avant d'aller plus loin. Là, on parle des fréquentations. Dans les fréquentations, à notre époque, disons que cet enseignement-là que j'apporte ne pourrait pas être exactement le même, n'aurait pas pu être exactement le même il y a un siècle de ça, d'accord? C'est vraiment dans le contexte où j'ai la liberté de choisir avec qui je vais me marier. J'ai la liberté de considérer avec qui je vais me marier. Et puis, honnêtement, lorsque je me préparais, j'étais en train d'étudier ça, préparer ça, tout ça, je me disais, c'est comme s'il y a plein de choses qu'on dit là qui sont vraies pour avant le mariage. Puis une fois que tu es marié, tu es obligé de dire, OK, que j'ai bien fait ça ou non, on repart à zéro à partir d'ici. Toutes ces conditions-là ne sont plus à considérer. Parce que là, on est mariés. D'accord? Parce que vous allez voir ce que ça va créer probablement, c'est aïe, je cherche vraiment quelqu'un de bien. Tu sais. Mais c'est ça l'idée. Et ça va à l'encontre de la culture populaire qui est plutôt j'ai eu un coup de foudre, je suis tombé en amour. D'accord? Et mais il y a une place pour ça aussi. Il y a une place pour ça aussi. C'est clair, même dans les Écritures, à travers, par exemple, le Cantique des Cantiques. OK? Fait que je voulais juste mentionner ça, ça peut créer une certaine pression pour plusieurs de voir un peu comment est-ce qu'on se prépare. 5 principes bibliques importants. Les personnes seules ne devraient s'engager dans des fréquentations uniquement, devraient s'engager dans des fréquentations uniquement dans le but de trouver un partenaire pour le mariage. D'accord? Donc, ce n'est pas des fréquentations dans le but d'en essayer plusieurs et de me marier, mais les fréquentations servent uniquement à ça. Ce n'est pas une manière de vivre ma vie sociale active. Puis dans certains milieux ou dans certaines églises, ça ressemble quand même un peu à ça. C'est un peu une autre manière de vivre la socialisation, d'accord? On se fréquente, Ouais, est-ce que vous voulez vous marier? Ben, on ne sait pas, on va voir. Vous ne devrez pas vous fréquenter, tout simplement. Parce que ça ne sert pas à ça. C'est une copie conforme de ce qui se vit dans le monde lorsqu'on est en train de le faire comme ça. Généralement, les hommes devraient initier les fréquentations. Je suis vraiment vieux jeu ce matin, là, solide. Oups, on va voir pourquoi. Par contre, nous ne voudrions pas en faire une loi ou être légaliste avec ça. Trois, les fréquentations devraient idéalement être initiées et se vivre sous l'autorité de l'Écriture et le conseil de la famille, des amis de l'Église. Donc, on va le développer tantôt, mais l'idée de vivre des fréquentations comme complètement hors des conseils de nos proches, hors des conseils de la famille de Dieu, comme en parallèle avec ma vie chrétienne d'Église, ça ne rentre pas vraiment dans une vision biblique des fréquentations. Et il y a beaucoup de choses malsaines qui peuvent s'en suivre aussi, d'accord? Quatre, les personnes seules devraient être à la recherche des qualités mises de l'avant dans les Saintes Écritures. Donc, ce matin, on va vous challenger à dire, OK, je peux choisir, donc je vais choisir quelqu'un qui me plaît, quelqu'un pour qui j'ai un attrait au premier regard, quelqu'un avec qui je sens qu'on a des affinités, puis on serait heureux ensemble, tout ça. Mais on va voir que l'emphase biblique ou les qualités que les Écritures mettent de l'avant ne sont pas énormément de ce côté-là. Et moi, je vais vous mettre au défi de réviser ce que vous cherchez dans la personne que vous aimeriez, en cherchant une personne avec qui vous aimeriez vous marier. Enfin, cette relation va-t-elle servir Dieu et son Église? Par exemple, le mariage est une image de la relation entre Christ et son Église. Est-ce que ce futur mariage servira le corps local comme Jésus a servi son Église? Si vous en allez dans les fréquentations, avec une espèce de démarche très, très, où vous vous isolez, vous allez dans votre coin, c'est probablement un reflet de ce que vous allez faire dans le mariage aussi. D'accord? Fait que oui, on l'a dit, lorsqu'on a fait toute la partie sur le célibat, on l'a dit, celui qui se marie choisit de servir avant tout son époux ou son époux. Ça va être ma première manière de servir le royaume, ça va être de servir mon foyer, d'accord? Ce qui va être différent de la personne célibataire qui a plus de temps, Paul dit, pour servir le Seigneur au lieu de servir sa femme, d'accord? Donc, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de temps qui va être consacré au mariage, à la famille, ces relations-là deviennent super importantes. Mais en même temps, une famille qui se marie, un couple qui se marie, puis qui là, il dit, bon, ben là, c'est nous, on le sent, des fois, il y a une espèce de phénomène de cocooning où ils disparaissent. Boum! On les voit le dimanche, mais ils ne sont plus en contact avec l'Église. C'est pas sain, puis ça augure pas bien pour la suite. Puis c'est pas que ça augure pas bien pour la suite au niveau de l'implication dans l'Église. Pour la suite du mariage, ça augure pas bien. Parce que la vie chrétienne, le chrétien n'est pas là comme pour se replier sur lui-même, son petit bonheur à lui. Il est là pour servir. Fait que si vous vous engagez dans des fréquentations, puis vous allez voir un des critères qu'on va identifier, si vous vous engagez dans des fréquentations puis que la personne que vous voulez fréquenter n'a pas à cœur de servir comme vous avez à cœur de servir, ça va être long, longtemps votre histoire. D'accord? Parce que votre priorité est probablement sur le royaume de Dieu, puis sa priorité est sur bâtir son foyer, son petit royaume. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas le réaliser, puis OK, changer sa perspective, tout ça. Mais c'est ça. Ce mariage-là va servir à quoi? Est-ce qu'il va servir à la gloire de Dieu à travers l'Église locale, ou est-ce que ça va être un petit cocon, un petit cocoon? Oui, Paul. Sauve-toi en courant. Fait que ce que Paul dit, c'est qu'il y a un ami à lui qui a rencontré une chrétienne, je présume quand même. C'est ça. Une dame qui se dit chrétienne par le web, tout ça. Le seul hic, c'est qu'elle ne va pas dans aucune assemblée. C'est quoi mon conseil? Sauve-toi en courant. Il y a un certain nombre de trucs, il y a un certain nombre de valeurs que c'est vraiment pas sage. C'est vous promettez une vie compliquée si vous pensez que ces valeurs-là vont changer à travers les fréquentations. Je commence à fréquenter quelqu'un, il y a des valeurs fondamentales, comme comprendre que la vie chrétienne, ça se vit en église locale, sous l'autorité de l'Église, on est redevables les uns aux autres. C'est une valeur absolument fondamentale du christianisme. C'est clair, clair, clair dans tous les enseignements de Jésus. Je commence à fréquenter quelqu'un, pour cette personne-là, ça, c'est pas clair. Là, je me dis, ah, c'est pas grave, ça va changer pendant les fréquentations. Oui, ça se peut que ça change pendant les fréquentations. Ça se peut que ça change aussi après le mariage. Ça se peut qu'on revienne où on était avant. Parce que ce n'était pas une valeur avant. Tout d'un coup, elle tombe en amour avec toi. Fait que là, c'est devenu une nouvelle valeur. T'es mieux d'espérer qu'elle soit chaque jour en amour avec toi quand vous allez être mariés. T'sais? Parce que la valeur est venue lorsqu'elle est en amour avec toi. Fait que si le mariage va bien et est en amour tous les jours, elle te trouve fantastique et merveilleux, peut-être que sa valeur de l'importance du corps de Christ va demeurer. Vous comprenez? Je suis sarcastique, là, je le sais. Mais c'est ça. C'est souvent ça que nous, on rencontre. Qu'on prend cet exemple-là de l'Église locale, il y en a plein d'exemples. Il y a des valeurs fondamentales que tu veux voir avant de fréquenter la personne. Si tu vois une transformation pendant les fréquentations, tu as autant de chances que ça marche que d'aller jouer au casino. Puis ça, c'est mon expérience pastorale. J'aurais des histoires à vous raconter une tonne. D'accord? Il y en a que ça marche. Puis on se base sur, ah, OK, celui-là, ça a marché. Puis on se dit, OK, donc ça peut fonctionner. Oh oui, au casino, tu peux gagner, tu peux acheter la loto aussi. Hein? Pas de trouble. Moi, je le fais pas, mais ça se peut que tu gagnes, wow. OK. Si ces principes vous semblent trop généraux, trop simples ou dogmatiques, ça veut dire comme trop arrêtés, comme une espèce de loi, c'est peut-être parce que notre culture rejette ce modèle pour le couple. Il s'agit d'aspects importants d'une fréquentation chrétienne qui cherche avant tout la gloire de Dieu. Alors, chercher un conjoint sur la base de qualités bibliques. Mais avant de chercher un conjoint, on va commencer par se demander si nous-mêmes, on est prêt à chercher. Fait que la première question, c'est est-ce que moi-même, je suis un bon conjoint potentiel avant de regarder à l'autre? Quelques questions, évidemment. Est-ce que vous êtes chrétien? Moi, je dirais, est-ce que tout le monde autour de vous savent que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes évidemment chrétien? D'accord? Il y a beaucoup de chrétiens, mais est-ce que tous sont vraiment chrétiens? Ça, c'est une autre question. Donc, ça, c'est super important. Il faut clarifier ça avant d'aller plus loin. Est-ce que vous grandissez comme chrétien? Est-ce que vous êtes en train de grandir? Est-ce qu'il y a une croissance? Allez pas dans les fréquentations pour vous sauver de votre état, d'endormi spirituel. J'essaie de le dire gentiment. Mais allez pas là-dedans pour vous dire, « Ah, OK, ça va tout ranimer la flamme. Là. Je fais mon culte depuis qu'on se fréquente. » Et tu vas faire quoi quand ça va être la guerre à la maison puis ça ira pas bien? Tu le feras plus. Tu le feras plus. Fait que, est-ce que vous avez déjà dans votre vie des indices clairs de votre croissance spirituelle? Puis si ce n'est pas le cas, c'est pas dramatique. C'est juste, applique-toi à faire ça. Règle ça avant. Développe ça avant. D'abord, si toi, tu es en train de grandir spirituellement, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que tu risques d'être plus sage dans le choix de ton conjoint. Mais si tu es dans une période où non, comme ça arrive à tous les chrétiens, ça va moins bien, engourdi, un peu endormi par le péché, comme nous disent les Écritures, est-ce que vraiment c'est dans cet état-là que tu veux choisir ton futur conjoint? Est-ce que c'est vraiment dans cet état-là que tu vas avoir vraiment la sagesse de Dieu pour discerner la bonne personne? Je pense pas. Donc, est-ce que tu es en train de grandir? Est-ce qu'on voit le fruit de l'Esprit qui est là dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, les fréquentations vont être une méga distraction de cet objectif-là qui est prioritaire. Troisièmement, est-ce que vous êtes spirituellement prêt à vous engager dans une relation? Dans le fond, ici, ce point-là, puis le suivant, là, ce qu'on veut adresser, c'est il y a certaines luttes, il y a certains péchés, il y a certains combats, il y a certaines histoires personnelles qui valent vraiment la peine d'être traitées avant de s'engager dans les fréquentations. Qu'on parle de dépendance, oui, à la pornographie, mais ça peut être à la sexualité, ça peut être dépendance au gambling, ça peut être d'être totalement immature. Tu sais par ton histoire que chaque fois que tu t'es engagé dans une relation, c'était comme, tu sais, il y avait Jésus, mon sauveur, j'ai commencé à fréquenter, voici maintenant mon sauveur. Grosse dépendance émotive qui n'a pas de bon sens. Va régler ça avant de faire ça. Parce que tout ce que tu fais, c'est que tu vas créer une idole. C'est insupportable, c'est lourd à porter pour la personne qui doit jouer ce rôle-là de ton idole dans ta vie. T'sais. Fait qu'il y a un certain nombre de trucs, des combats, des luttes, des péchés, qui valent vraiment la peine d'être réglés avant. Ça ne veut pas dire que je vais être parfait. Mais je comprends que ce que j'avais à saisir, ce que j'avais à apprendre des Écritures a été compris. Il y a un changement de vie qui est évident. Il y a des fruits qui sont évidents. Ce n'est pas trop fragile, cette affaire-là. C'est pas qu'on attend la perfection, d'accord? Mais c'est beaucoup de choses à gérer dans l'esprit d'une personne, dans son cœur, de se préparer au mariage puis d'essayer de régler ces choses-là. Puis encore une fois, comme la semaine dernière, à travers une des questions, ça se peut que les fréquentations en révèlent d'autres. D'accord? Puis ça se peut que tu ne les vois pas toutes, puis tu te maries. Puis c'est dans le mariage que d'autres choses qui relèvent de ton passé vont être révélées. C'est correct aussi. C'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est la catastrophe, mais si je suis conscient aujourd'hui, qu'il y a des choses semblables où je devrais maturer avant de m'engager dans les fréquentations ou dans le mariage, c'est le temps de le faire. C'est le bon moment pour le faire. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Juste sur ce point-là. Une question, Paul? Oui. Dans la préparation. Oui, c'est ça. Trop souvent, c'est le manque de sérieux dans la préparation vers les fréquentations. Définitivement. Définitivement. Le point 5. Est-ce que vous êtes humble, docile, respectez-vous l'autorité? Puis vous pouvez répondre à cette question-là en regardant votre relation avec vos parents, qui, à votre âge, est probablement très différente. C'est plus un rapport où j'honore mes parents. Je suis capable d'écouter leurs conseils, respecter leurs conseils. Puis je vais me faire une idée, je vais me faire une conviction en moi. Merci, Sam. C'est quoi mon rapport avec les patrons au travail? C'est quoi mon rapport avec les autorités dans l'Église, les anciens qui sont appelés à conduire? Si cette relation-là, c'est n'importe quoi, mais que tu sois le gars ou que tu sois la fille, ça va être difficile dans ton mariage. Ça va être difficile. Donc, est-ce que tu as un cœur enseignable? Est-ce que tu as un cœur docile? Est-ce que tu as un cœur disponible? Si ce n'est pas le cas, si l'écho que les gens te disent, c'est non, travaille ça, adresse ça tout de suite, d'accord? Là, je vous regarde toutes, puis je pense que vous êtes toutes capables de me dire oui, probablement. Puis en plus, vous êtes ici, fait que j'ai l'impression de ne pas m'adresser au bon auditoire. Mais vous connaissez votre cœur, hein? Peut-être qu'il y a quelque chose là quand même pour vous. pardon. Est-ce que vous êtes en mesure de maintenir de bonnes relations ou des amitiés? Si vous ne l'êtes pas, vous devriez vous concentrer d'abord à bâtir de bonnes amitiés spirituelles. Si vous êtes quelqu'un qui dit « moi, je ne suis pas capable d'avoir des amis, je n'arrive pas à développer des amitiés, ça reste superficiel » ou quand on va plus loin, ça brise ces amitiés-là, bien le mariage, en grosse partie, ça va être la plus grande amitié de ta vie. Tu sais. Ce n'est pas l'alliance autour du doigt qui va faire que cette amitié-là va devenir magique, c'est tes aptitudes à t'investir dans cette amitié-là. D'accord? Fait que là, on parle juste de nos critères pour nous. Et puis le dernier, c'est financièrement où est-ce que vous êtes. Je pense que c'est encore plus important ici au Québec. Ce cours-là est inspiré d'un cours de Capitol Baptist Church à Washington, mais je pense que c'est encore plus important au Québec. Si vos finances, c'est n'importe quoi, vous croulez sous les dettes, puis vous voulez vous préparer à vous marier, devenez mature financièrement. Apprenez à gérer vos sous comme que ça ait de l'allure. Faites du ménage dans tout ça, puis préparez-vous pour le mariage. Ça va? Parce que les finances, c'est une des causes de tension les plus importantes dans le mariage. Vous ne voulez pas vous avancer là-dedans de manière immature. Considérez un conjoint potentiel. Lorsque vous pensez à un conjoint potentiel, que devriez-vous chercher? Quelles sont les principales qualités que les chrétiens et par comparaison les non-chrétiens recherchent dans un conjoint? Vous avez déjà vu ça dans des sondages qui disent c'est quoi que les gens cherchent chez un conjoint? En général, on va entendre ces choses-là à peu près dans l'ordre suivant. Belle personnalité, apparence physique attrayante, le sens de l'humour, la personne me fait rire, puis elle aime s'amuser, avoir du bon temps. C'est en général, là, dans tous les sondages, ce qu'on cherche le plus. Puis pour de vrai, moi, je pense qu'on va continuer à chercher ça. D'accord? Dans le sens, je peux vous dire ce que la Bible enseigne, mais on est à une époque où on peut choisir. Fait que vous aurez beau me dire, non, moi, je suis super spirituel, puis tu sais, cette personne-là, j'ai aucune attirance physique pour elle, je la trouve super plate. Quand je suis avec elle, je m'ennuie, elle me fait jamais rire. Mais elle prie, elle aime Jésus, puis elle veut servir le Seigneur, fait que c'est elle que Dieu veut que je marie. T'sais. Moi, personnellement, je ne vous marierai pas si vous venez me voir avec ça. C'est pas moi qui vais célébrer cette union-là, je vous le garantis. Fait que je ne suis pas en train de dire que ces quatre critères-là, c'est quelque chose qu'on jette aux poubelles. Je pense qu'il faut vivre à notre époque. J'ai le choix. Fait que de toute façon, je vais avoir une attirance. De toute façon, il faut qu'on ait du bon temps. C'est à chaque fois qu'on est ensemble, c'est la chicane alors qu'on ne se fréquente même pas. Ben, y en a qui s'engagent comme ça dans le mariage, là, mais... En tout cas, on va essayer de vous éviter ça, d'accord? Fait que je pense qu'ils sont là. Je pense qu'ils sont là. Mais ce n'est pas des critères sages, d'accord? Ce n'est pas là-dessus que je fonde mon mariage. Donc, mon mariage ne peut pas être basé sur ces quatre choses-là. La personne a une belle personnalité, la personne est attrayante, on a du bon temps à me faire rire. Mais encore, tu sais, parce que c'est très, le mariage, c'est très, très, c'est très banal au quotidien, le mariage. C'est très terre à terre, c'est très, faut traverser la semaine, faut se rendre jusqu'à la fin de semaine, faut faire nos trucs, faut, OK, oui, on va prendre un temps ensemble vendredi soir, on va prendre un bon temps ensemble. Fait que ça prend beaucoup de maturité pour vivre ça ensemble puis grandir ensemble. Fait qu'il y a des critères qui sont beaucoup plus sérieux que ça. Fait que, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de faire quelque chose cette semaine que vous allez faire juste pour vous. Moi, je vous encourage à le partager avec des amis. Qui ici a une liste de critères de ce que vous recherchez chez votre futur conjoint? Justine, OK, fait que tu peux peut-être nous partager tes trois? Non, c'est une joke. Toi, t'en as une. Qui a une liste? Antoine? Oui? Une liste mentale, non écrite. Ouais, deux, trois affaires, c'est bon. Moi, je vous encourage pour de vrai. Moi, je vous encourage. Oui, faites une liste. Je suis très sérieux. Puis cette liste-là, ce n'est pas une liste qui est figée, d'accord? C'est une liste qui va évoluer comme le Seigneur va diriger. Mais je veux dire, si vous cherchez une maison, vous y allez comment? Ah, oh, on va regarder ce qu'il y a à vendre ce matin. Ouais, celle-là, OK. C'est comme ça que vous magasinez une maison? T'imagines, vous avez des critères si vous cherchez une maison? Bon, c'est un conjoint, tu sais, c'est juste pour la vie. La maison, tu peux la vendre, n'importe quoi. Le conjoint, non. Dieu va me diriger. Fait que faites une liste. Puis cette liste-là, Dieu va la faire évoluer. Ayez la sensibilité puis l'humilité devant Dieu de dire, « Seigneur, tu révises quand tu veux la liste. » Esther, un de ses critères, Esther, c'est une musicienne classique. Donc, un de ses critères, c'est qu'elle devait, son futur mari devait être un musicien classique. Puis elle ne me connaissait pas. Puis elle priait pour son futur mari. Elle dit, « Seigneur, il est peut-être chrétien, il est peut-être pas chrétien. S'il n'est pas chrétien, il est dans le monde. Je te demande de l'amener vraiment à l'Évangile puis de le protéger de ses bêtises. » Puis elle priait pour moi parce que j'étais dans le monde, je n'étais pas chrétien. Fait qu'elle avait tout, elle priait comme ça, mais puis là, elle avait sa liste, puis elle disait, c'est toi, Seigneur. Puis à un moment donné, elle ne m'avait pas rencontré. Le Seigneur a mis à cœur, elle dit, peut-être pas obligé d'être musicien. Peut-être qu'il pourrait juste comme avoir une belle voix puis chanter juste. Sérieux, sérieux, là. Elle a ajusté ça, tu sais. Je ne chante pas juste tout le temps. Fait qu'à un moment donné, le Seigneur a mis à cœur. Non, peut-être pas. Peut-être qu'il n'est pas obligé de chanter juste. Mais j'aimerais ça qu'il apprécie la musique. Soit un mélomane qui est capable d'apprécier la musique. Ça s'est arrêté là. Check, je peux rentrer. Je me suis converti, je suis entré en scène. Mais c'était correct pour Esther. Elle était convaincue, c'était comme, non, c'est pas assez sérieux, c'est pas assez important comme critère. Je pense que je serais heureux s'il appréciait la musique. Fait que je suis arrivé avec mon jazz, puis ma musique contemporaine, puis elle était avec son classique, puis on a partagé ça ensemble. Fait que moi, j'y crois personnellement à ça, de prendre le temps de faire une liste que je soumets à Dieu, puis je laisse Dieu changer, guider, parce que il y a plein d'émotions dans tout ça. Je peux avoir un coup de foudre, puis perdre de vue des choses qui étaient vraiment importantes pour moi. Puis c'est bien de le faire. Fait que je vous donne un devoir. Cette semaine, vous faites votre liste. C'est bon? La semaine prochaine, je vous demande si vous avez fait votre liste. Je ne vous demanderai pas de la partager, d'accord? Vous avez un devoir pratique cette semaine. Vous faites votre liste. Pour ceux qui viennent de se marier, vous pouvez aller voir votre liste que vous aviez mentale. Juste dire, ah ouais, c'était bon, hein? Fait que, puis moi, je vous encourage à le partager avec quelqu'un de proche. Puis dire, quand tu vas me voir m'intéresser à quelqu'un, là, rappelle-moi ma liste, puis on va checker ça ensemble. Si ça va, tu sais. Puis il y a des critères que Dieu va vous montrer de mettre de côté. Je pense que c'est pas juste des critères spirituels, là. D'accord? Je pense qu'on a un bon père, puis il veut nous bénir. Dix questions à se poser. Voici quelques éléments généraux à considérer lorsque vous pensez à une personne, lorsque vous envisagez une personne. Est-elle clairement chrétienne? Je ne veux pas être trop redondant, je vais aller vite sur les éléments. Est-ce qu'elle démontre un amour évident pour Dieu dans la façon dont il ou elle utilise son temps, son argent? A-t-elle un amour évident pour la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui va trancher dans vos désaccords. Okay? Y a-t-il des évidences claires du caractère chrétien? Est-ce qu'elle manifeste le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi? Est-elle engagée dans le service, engagée dans le ministère? Est-ce qu'elle démontre un véritable intérêt à prendre soin des autres? Est-elle fidèle et constante dans ses disciplines spirituelles, personnelles? jusqu'à la gestion financière. Est-ce qu'elle a la même vision du mariage que vous? Avez-vous confiance en elle et confiance en sa maturité? Et est-ce que ceux qui vous connaissent ont confiance en cette personne? Parce qu'ils sont de bons juges pour vous. Puis moi, je pense que certains d'entre vous vous dites, « Aïe, aïe, je ne trouverai jamais quelqu'un avec qui me marier. » Mais sérieux, tu voudrais te marier avec quelqu'un qui n'a pas une de ces qualités-là? Moi, je préfère aller devant Dieu et dire, « Seigneur, j'ai un problème. » C'est impossible. Mon besoin est impossible à combler. Au Québec, actuellement, on a besoin, dans les 10 prochaines années, de former 200 ouvriers. Impossible. Ça me va, ça, parce que j'ai décidé de suivre le Dieu de l'impossible. Fait que, ayez pas peur de considérer sérieusement ces choses-là dans vos critères, les mettre dans vos critères, parce que de toute façon, vous ne voulez pas vous marier avec quelqu'un qui manifeste pas une belle maturité. D'accord? Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui est en train de faire la course. Il y a une image un petit peu plus loin que j'ai trouvée super bonne. Je pense que le pasteur s'appelle Tom Nelson. Puis il dit, tu veux savoir avec qui te marier? Il dit, cours après Christ à toute vitesse. Poursuis Christ à toute vitesse. Puis à un moment donné, pendant ta course, regarde à droite puis à gauche pour voir s'il y a quelqu'un qui court à la même vitesse que toi. C'est peut-être cette personne-là que Dieu veut que tu maries. C'est une bonne image. C'est une bonne image. Parce que moi, personnellement, dans mes amis les plus intimes, puis dans mon mariage, qui est mon ami le plus intime, c'était clair que je voulais quelqu'un qui allait me tirer par en haut. Fait que je ne pouvais pas envisager de me marier avec quelqu'un qui n'allait pas me provoquer à grandir spirituellement. Pour moi, c'était hors de question. Ça me fait super plaisir d'aimer un paquet de monde, puis de passer plein de temps avec un paquet de monde qui sont moins matures, qui ne vont pas nécessairement, ils peuvent m'édifier parce que bon, ils grandissent, puis il y a des belles choses à voir, mais ce n'est pas eux qui vont m'instruire, ce n'est pas eux qui vont me provoquer vraiment, ils sont moins matures, tout ça. Je passe un paquet de temps, j'aime ça, c'est génial. Mais si je dois choisir mon épouse, non, je veux qu'elle soit capable de m'inspirer par sa vie chrétienne. Fait que je trouve que c'était super belle image forte de ce pasteur-là. Cours, poursuis Jésus, casse-toi pas le pompon pour savoir qui tu vas marier. Cours. À un moment donné, check à droite, check à gauche. S'il y a quelqu'un qui est en train de courir avec toi, là, c'est peut-être cette personne-là. C'est peut-être la bonne personne. Belle image, hein? Question pour les dames à vous poser. Est-ce un homme que vous respectez? Est-ce qu'à vos yeux, il est respectable? C'est super important. Parce que si vous cherchez après ça dans votre couple, dans votre foyer, à refléter vraiment les valeurs bibliques sur le mariage, bien, lorsqu'on entre dans le mariage, l'homme est appelé à être le chef du foyer et à donner une direction dans son foyer. Puis ça se fait en collaboration, ça se fait avec la communication, ça se fait avec beaucoup d'amour. Mais si dans votre cœur, cette personne-là est géniale, mais n'est pas respectable, vous avez un crush dessus, c'est comme « wow, c'est génial », mais il n'est pas respectable. Vous ne voyez pas respecter cette personne-là. Ça va être vraiment difficile. Oui, Sam? C'est suffisamment un modèle pour que je veuille m'asseoir et l'écouter. Suffisamment un modèle dans sa piété pour dire ça, c'est quelqu'un qui, à mes yeux, est sage. Puis si des fois je dois dire, regarde, on n'est pas d'accord, mais il faut prendre une décision, fait que vas-y, lead mon homme. Je vais m'en remettre à Dieu. J'ai confiance qu'il marche avec Dieu. C'est surtout ça que je veux dire parce que Paul, dans Éphésiens 5, va utiliser deux termes dans la relation de l'épouse avec l'époux. Il va parler de soumission, puis il va parler cette idée-là d'honorer, respecter. Une fois que tu es marié, tu es signé, c'est fait. Tu dois le faire. Autant choisir quelqu'un avant que tu trouves respectable, n'est-ce pas? Puis je veux dire, c'était comme ça. Regardez, on a des simili-fréquentations dans le Nouveau Testament. Ils sont déjà fiancés, là, mais Joseph fut marié. Mais Joseph était un homme respectable, c'était un homme honorable. Puis lorsqu'il a appris, oups, OK, elle va être enceinte, tout ça, il s'est comporté comme un homme honorable. Il n'est pas comme. Il ne s'est pas poussé en disant qu'est-ce qui s'est passé. Il a voulu prendre soin d'elle puis comprendre qu'est-ce qui se passe, d'accord? Fait que. C'est ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sam? Oui? Super. Quand tu cherches quelqu'un. Puis vous avez commencé vos fréquentations, tu avais 18. C'est ça? Oui, je comprends. Mais en même temps, John. Oui. Si tu avais pris ce cours-là à cette époque-là, il y aurait des choses qui auraient changé dans ta tête. Puis tu aurais dit, aïe, aïe, ça, c'est ma job. Tu comprends? Puis déjà, il y aurait comme une attitude, là, man up, là, come on. Fait que. Je comprends. Mais 18, c'était quand même jeune. Puis c'est pas une critique. Je veux dire, nous autres, moi, je me suis marié, j'avais 21 ans, là. OK, fait que je suis bien mal placé. Mais je pense que c'était ça, c'était clair dans notre cas. C'était déjà évident qu'elle estimait que j'étais respectable. Mais. Fait que 18, tu es encore en train de te découvrir beaucoup, mais quand tu arrives à 19, 20, 21, 22, si à cet âge-là, les gars, entre la fin des 17 ans puis 21 ans, tu as une bébite, tu es en transformation incroyable chez les garçons, là, dans notre culture. Je pense que c'est un phénomène culturel. Mettez-le dans une autre culture avec un petit peu de responsabilité, puis je pense que ça va se passer plus tôt. Mais c'est pas sarcastique là, ce que je dis. Je pense que le phénomène de processus très ralenti vers la maturité, très, 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 un phénomène sociétal, c'est très culturel. Mais dans notre culture à nous, si le gars est à 21 ans, puis il n'est pas respectable, puis je pense, là je vais dire quelque chose de pas fin, OK? Je pense que dans les 7-8 dernières années, il faut repousser ça encore un petit peu. 22, 23, 24 ans, OK, ça, 24 ans, il n'est pas respectable, on a un sirop de problème. OK? Tu ne fréquentes pas un gars qui n'est pas respectable à 24 ans. Tu dis, va te faire sécher le nombril, deviens respectable, puis après ça, je serai intéressé. Non, mais sérieux, le gars t'approche, il n'est pas respectable, il a encore des comportements enfantins, tout ça. Rends-lui service. Dis-y, man, t'es vraiment mon genre. C'est juste que je ne fréquente pas les bébés. Fait que, va vieillir un peu, fais-toi pousser une barbe, rase ta barbe, une belle moustache, reviens me voir. OK? Mais vous comprenez ce que je veux dire? Puis si le gars, il est sérieux, donne-y 8 mois. Tu vois, il va revenir, ça va être une autre bête. Il va être différent. Il va avoir compris que, OK. Puis s'il est capable de le faire, bien, un petit peu ce que Jonathan dit. Vous allez voir en lui vraiment le potentiel parce qu'il y a quelque chose de sérieux là-dedans. Mais commencez pas les fréquentations en disant ça. Il faut que ça change, hein? Puis OK, on va se marier. Je vais m'en remettre à Dieu, là, mais il faut que ça change. Donc, une fois que tu es marié, faut sa chance quand Jésus va décider. C'est tout, là. Après ça, toi, tu l'aimes. Oui, Sam. Oui, ça serait deux éléments pratiques. Je te dirais aussi qu'il y a une certaine sagesse. Pas besoin d'avoir un don de sagesse, mais une certaine sagesse, ça veut dire qu'il est enseignable. La personne qui n'est pas enseignable dit beaucoup de conneries, mais elle peut prendre des décisions très mauvaises aussi. François? Exactement. Ben, c'est-à-dire que tu peux t'arranger pour être quelqu'un de généralement respectable, puis elle décidera si elle trouve que tu es à la hauteur. Oui. Oui. Non, c'est ça. C'est vraiment des critères pour la fille. C'est la fille. Tu vas être appelé à le respecter. Tu n'auras pas le choix. Ça va être ça, le mariage. Fait que si en partant, tu sais, il est drôle, il me fait rire, puis on a du bon temps ensemble. OK, c'est correct. Passez les clés de ton char, donne-lui ta carte de compte de banque, puis dis-lui que c'est lui qui va décider où est-ce que vous allez habiter un jour. Es-tu encore drôle, il te fait rire, puis vous passez du bon temps ensemble? Tu comprends? Ah, il est drôle, il me fait rire, puis on passe du bon temps ensemble. Ben, garde-le comme ami, puis sortez en gang, allez écouter des humoristes, c'est cool. Mais marie pas ça. OK. Ça. Ce clown-là. Vous voulez que je le dise comme ça? Je vais le dire comme ça. Croyez-vous qu'il prendra soin de vous, de vos enfants? Peut-il avoir, pourvoir aux besoins de la famille? Saura-t-il vous servir et vous aider à grandir spirituellement? Donc, est-ce que vous percevez ce genre de qualité-là chez cette personne-là? D'accord? Est-ce qu'il grandit dans sa piété, dans sa sainteté comme un homme de Dieu? Est-ce qu'il y a une croissance? Puis j'ai vu des gars qui étaient juste pas prêts. Ils sont allés grandir, puis oui, ils se marient là, de ce temps-ci, là, ces gars-là. Ils sont plus matures. OK. Question pour les hommes à se poser. T'es-tu regardé? C'est le chapeau de femme, man. C'est un compliment que je te faisais, David. C'est beau de te voir grandir. Question pour les hommes à se poser. Croyez-vous qu'elle prendra soin de vous, qu'elle saura bien former vos enfants comme disciples de Christ? Que vous soyez dans un contexte où la madame a une carrière ou qu'elle n'a pas une carrière, il reste que pendant la petite enfance, la maman, c'est la personne qui est la référence pour les enfants. Puis pendant la petite enfance, c'est elle qui va être la première influence comme formation de disciple avec les enfants. Ça va rester ça, que vous ayez n'importe quel modèle là, économique, familial, puis tout ça. Puis c'est bien comme ça. Puis il faut que lorsque les enfants arrivent dans la préadolescence puis vers l'adolescence, surtout si vous avez des garçons, faut que pop s'en mêle, puis ça presse. Puis il faut que le mode de relation change, d'accord? Puis on le vit, là. Moi, je veux dire, mes enfants sont là, 15 ans, 17 ans. Même avec ma fille, il faut que je sois plus présent que je l'étais. Tout petit, j'étais comme la règle qui dit « Maman a raison, donc... » Puis j'étais celui qui racontait les histoires bibliques aux enfants. D'accord? C'était beaucoup ça, puis le papa qui aime. Mais quand on arrive à la préadolescence, là, les choses changent. Donc, est-ce que la fille que tu considères, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire cette formation de disciple-là avec tes enfants? Est-ce que tu la vois faire ça? D'accord? Pas simplement comme les nourrir, tout ça, là, mais s'investir. Est-ce qu'elle grandit en piété selon le modèle de la féminité biblique? Alors oui, on vit à une époque où la femme peut avoir une carrière, des choses comme ça, mais est-ce que tu vois qu'elle comprend c'est quoi une femme, une épouse, bibliquement? Qu'elle entre dans ce modèle-là? Est-ce qu'elle a réfléchi à ça? Croyez-vous qu'elle saura vous supporter dans votre rôle de leader dans votre mariage? D'accord? Les proverbes parlent de la femme querelleuse. Là, je ne m'adresse pas aux filles, hein, en passant. Je ne suis pas en train de critiquer les filles, je m'adresse aux gars. Mais les gars, écoutez bien ceci. Le proverbe parle beaucoup de la femme querelleuse. Puis c'est terrible. C'est vraiment terrible. D'accord? C'est une vie difficile. Fait que, une fois que tu es marié, tu l'aimes, ta femme querelleuse. Mais avant de te marier, tu n'es pas obligé de la marier. Tu peux la laisser passer. Ouais. Fait que, est-ce que vous avez un petit peu le feeling comme qu'on a mis des standards puis ces personnes-là n'existent pas puis oublie ça finalement, on ne pourra jamais se marier? Est-ce que ça a produit un peu ce que je vous disais au début? Hein? Non? C'est bon. Mais ces personnes-là existent. Ces personnes-là existent, d'accord? Puis en fait, si vous les cherchez, si tout le monde ici là, cherche juste des gens comme ça, la vérité, là, c'est que dans 2 ans, il va en exister encore plus. Mais c'est parce qu'on se permet d'aller dans des fréquentations qui sont des fois un peu n'importe quoi, où il n'y a pas des critères bibliques, qu'il y a des gars, par exemple, qui pensent qu'ils peuvent rester immatures longtemps, puis ça va être cool avec les filles. T'sais. Mais les gars, ils ont juste besoin de comprendre que ça ne vous intéresse pas en tout des bébés là-là. Ils vont arrêter d'être bébés là-là, je vous le dis. Les gars, ils veulent se marier. T'sais. Fait que, intéressez-vous pas aux bébés là-là, ils vont en avoir moins dans nos églises, parce qu'ils vont maturer. C'est les mêmes personnes, là. Ils aiment le Seigneur, c'est pas ça, là. Mais si tes critères sont là, puis les critères dans l'Église sont là, bien l'Église va avoir de l'air de ça. D'accord? Mais si on dit non, OK, vous êtes là, c'est correct. On a la pouponnée, on a plein de choses pour vous. Mais pas le mariage. Pas le mariage. D'accord? Puis quand vous allez être prêt pour le mariage, boum, le mariage, c'est bon. Mais ce qui va se passer pour de vrai, c'est que ça va tirer tout le monde vers le haut. OK? Mais si tu as de l'air sérieuse, tu as de l'air d'aimer le Seigneur, puis tu acceptes d'aller avec quelqu'un qui est immature, bien, c'est ça que tu communiques, c'est que tu peux surfer sur cette vague-là longtemps, puis les filles vont s'intéresser à toi. D'accord? Ils existent. Ils existent autant qu'il y a de chrétiens dans les églises. Mais on a juste besoin, chacun d'entre nous, de se regarder dans le blanc des yeux et de dire non, on veut être plus sérieux, parce qu'on veut vraiment faire des beaux mariages. Puis vous allez voir, ça va maturer, ils vont être là. Évidemment, j'aimais bien ce commentaire-là. Là. Souvent, lorsqu'on cherche un conjoint, nous recherchons quelqu'un parce que nous avons peur de rester seul. Puis on a besoin de communion. On ne veut pas être seul, on veut être en communion avec quelqu'un. Et en réalité, le conjoint que vous cherchez, c'est une personne avec qui vous allez vouloir adorer Dieu, vous allez vouloir servir Dieu, Vous allez chercher à glorifier Dieu ensemble. Vous trouvez une telle personne, ben, moi je vous dirais premièrement dans votre église locale. Premièrement dans votre église locale. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va être là. On a des activités inter-église. Ça se peut qu'il soit aussi dans une autre assemblée, d'une autre dénomination. Il y a des choses à regarder sérieusement dans ce cas-là. D'accord? Je vous dirais, si vous vous intéressez à quelqu'un qui est dans une autre assemblée, puis si c'est quelqu'un dans une assemblée d'une autre dénomination, d'accord? Il y a deux éléments, je vous dirais, qui sont importants à considérer. Le premier, c'est qu'il faudrait éviter que cette fréquentation-là devienne une fréquentation dans un « no man's land ». Parce que c'est une personne d'une église, puis une personne d'une autre église, puis bon, ben, on ne les voit jamais comme vraiment ensemble, bon, ben, ils fréquentent entre les deux églises. Puis ils ne sont plus sous la protection de l'église, ils ne sont plus sous les conseils de l'église. Puis la nature humaine étant ce qu'elle est, on peut se complaire dans cette situation-là. Puis vos fréquentations peuvent devenir n'importe quoi juste à cause de ça. D'accord? Fait qu'assurez-vous, si c'est le cas, d'amener cette fréquentation-là très, très rapidement sous la protection entendue d'une des deux églises. Ça veut dire que vous informez. Les leaders sont informés, on est en train de fréquenter, on veut bien faire ça, tout ça. D'accord? L'autre chose, c'est que minimisez pas l'importance de la théologie, ne minimisez pas l'importance de comment on comprend l'Église, comment on comprend le mariage dans une Église puis dans une autre. Fait, clairement, l'Église que vous allez fréquenter quand vous allez vous marier, ça devrait être déjà établi puis les deux devraient voir ça de manière très heureuse, assez tôt dans les fréquentations. Si ça reste un dilemme pendant toutes les fréquentations, puis qu'on parle d'églises qui ont vraiment des visions assez divergentes, puis je ne suis pas en train de condamner l'autre église, comme je vous dis, c'est possible, là. Mais ça demande de parler de théologie, ça demande de parler d'église, ça demande de parler d'où on va aller. Puis si, pour moi, il y avait des choses qui étaient super claires, qui étaient super importantes, puis je décide de renoncer à tout ça parce que je vais aller dans l'autre église parce que lui aime mieux ça ou elle aime mieux ça, bien, ça veut peut-être dire, dans le fond, que ce n'était pas tellement important pour moi, puis la parole de Dieu n'était peut-être pas si importante, puis la théologie n'était peut-être pas si importante, parce que finalement, je n'avais pas beaucoup de convictions. D'accord? Fait que moi, personnellement, je me serais intéressé à une fille qui est dans un autre milieu complètement différent, puis comme ça, elle aurait dit « pas de problème, je te suis », ça m'aurait inquiété. Parce que je me serais dit « ok, ça veut dire qu'elle n'avait pas de convictions. Il n'y avait rien qui était clair dans son esprit. » D'accord? Puis ces choses-là ont une incidence après ça sur le mariage. Fait que ça m'est arrivé encore cette année là, de conseiller des couples qui, c'est comme des church hoppers, là. Ils se promènent d'église en église, mais ils changent de dénomination avec des convictions des fois assez différentes. La parole de Dieu ne joue pas le même rôle, la même importance. Il y a plusieurs doctrines qui sont rattachées à ça. Puis ce que ça fait, c'est que dans ce couple-là, lorsqu'ils se parlent, bien, à tout moment donné, il y en a un qui doute du salut de l'autre. Les deux sont passionnés pour Jésus, puis à tout moment donné, il y en a un qui doute du salut de l'autre, puis qui dit que tu es en train de construire ta vie, pas sur le fondement de la parole, puis ça crée beaucoup de tension. D'accord? Donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ça demande plus de travail encore. Vous me diriez, je vais marier quelqu'un qui vient d'un autre pays. Je ne parle pas de quelqu'un qui viendrait d'une autre origine, mais qui vit ici, qui vient d'un autre pays. Le gap, la différence culturelle est encore plus grande. Ça demande plus de travail, plus de préparation. Il faut aller là. Il faut aller voir ça. D'accord? Ça va? On va devoir s'arrêter ici. François mentionne seulement, il y a pire que la solitude. Fait que quand tu te maries parce que tu ne veux pas être seul, pire qu'être seul, c'est être seul marié, en couple. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est vraiment pas le bon motif, d'accord, pour se marier. Je peux avoir la conviction que je ne suis pas appelé au célibat. Si on le dit, là, vous rappelez là, tout ce qu'on a vu sur le célibat. Puis je prie pour avoir un conjoint. C'est super, pas de problème avec ça. Mais je ne suis pas en train de régler dans l'urgence, une situation où je suis malheureux parce que je veux fuir cette situation-là. D'accord? Après ta conversion, c'est la décision la plus importante de ta vie qui va être la plus lourde de conséquences et de bénédictions par la grâce de Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour ces préceptes. Seigneur, on l'a dit, ta parole n'a pas d'entrée encyclopédique sur les fréquentations, mais on tire de tes Écritures, Seigneur, des principes de sagesse. Et j'espère, Seigneur, que chaque chose qu'on enseigne ici sont appuyées, sont là sur ta sagesse, Seigneur. Je te prie, Père, pour chaque personne dans cette salle, certaines d'entre elles sont ici pour apprendre à pouvoir mieux conseiller quelqu'un qui voudrait fréquenter. D'autres, dans leur cœur, se disent peut-être qu'un jour, puis d'autres encore disent « j'espère demain ». Je te demande, Seigneur, de mettre ta main sur chacun de nos cœurs afin que nous puissions grandir en sagesse. Grandir en sagesse, Seigneur. Bien faire les choses à cette époque privilégiée où on peut choisir la personne avec qui on va se marier. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.